demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 9 février, nous parlerons de l'appui des ONG lyonnaises pour faire face au tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie. Mobilisation notamment d'organisations comme le casque appui des sapeurs-pompiers qui partent aujourd'hui. Un épisode de pollution de l'air sévit en ce moment dans la région lyonnaise. Pour l'instant, aucune mesure contraignante. Des présidents d'associations pas très contents, ils viennent de co-signer un courrier destiné à Grégory Doucet et Bruno Bernard. Ces associations se disent opposées au scénario B du projet d'apaisement de la presqu'île, qui passe notamment par la fermeture à la circulation de la rue Grenette. Le futur de la friche des anciennes halles Nexans est en train de se dessiner, avec notamment la création d'un grand parc, mais il y aura aussi des logements, des commerces et des activités. Le reportage complet de Madeleine Clunia dans cette édition. Et puis nous parlerons également de l'occupation temporaire sur cette friche. Du gin et du whisky vont bientôt sortir des vieux hangars girlandais. La Coupe de France, c'est du football. L'Olympique lyonnais a dû aller jusqu'au tir au but pour se qualifier pour les quarts de finale.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'ONG Casque Appui a fait partir hier en fin de journée 7 sapeurs-pompiers pour la Turquie, 7 hommes et femmes qui sont des spécialistes de l'action internationale d'urgence. Objectif, aider les victimes du séisme qui a secoué la région lundi. La mission se déroulera au plus proche de l'épicentre du tremblement de terre qui se situe à Hatay, au sud-est de la Turquie. Elle est prévue pour durer une dizaine de jours. La Turquie et la Syrie ont été frappées, je vous rappelle, par un séisme de magnitude 7,8°. Le Secours Populaire Français met en place pour sa part un appel aux dons. Pour les dons par chèque, l'association demande de préciser la mention Fonds d'urgence France et Monde. Il est possible aussi de donner directement via Internet. Des aides humanitaires également à destination de la Syrie. L'association Free Syria Lyon, localisée à Vaux-en-Velin, prévoit de mettre en place un convoi de 3 containers de 15 tonnes ce vendredi. Vêtements chauds, kits d'hygiène, shampoing, dentifrice, kits de premier secours, également des couches, des vestes chaudes, du lait en poudre ou encore des fruits secs. Free Syria lance aussi un appel aux dons pour financer le transport.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Un épisode de pollution de l'air sévit en ce moment sur la région lyonnaise. La préfecture a placé le département du Rhône et la métropole en alerte niveau information et recommandation. Aucune mesure contraignante à ce stade, mais des recommandations, notamment pour les personnes vulnérables. Il est recommandé de limiter les activités intenses en plein air et à l'intérieur. Les températures froides le matin et le soir font grimper les concentrations en particules fines. Il est rappelé que les véhicules critères 5 et non classés sont interdits au sein de la zone à faible émission, la ZFE de la métropole de Lyon. 17 présidents d'associations viennent de co-signer un courrier destiné au maire de Lyon, Grégory Doucet, et au président de la métropole, Bruno Bernard. Ces associations se disent opposées au scénario B du projet d'apaisement de la presqu'île. Projet destiné à libérer l'espace public, et améliorer le cadre de vie et adapter la ville au réchauffement climatique. Parmi ces 17 associations, 6 associations d'habitants, dont 4 comités d'intérêt locaux, Sud et Centre Presqu'île, la Croix-Rousse et Renaissance du Vieux-Lyon. Les autres, 11 associations de commerçants issues de la presqu'île, dont My Presqu'île et les associations de Croix-Rousse, Gambetta, Vèze et Vieux-Lyon. Pointé du doigt la fermeture de l'axe Grenette à la circulation automobile. Ces associations dénoncent aussi la modification du plan de transport TCL avec la disparition des correspondances de bus à l'hôtel de ville et le report des lignes fortes sur les quais de Saône et rue Grenette. La concertation a vu la participation de 3000 personnes, 60% se sont prononcées pour le scénario réclamant la fermeture de la rue Grenette à la circulation. Pour les associations signataires, les commerçants et les habitants de la presqu'île particulièrement concernés sont sous-représentés. La restitution de la concertation réglementaire est prévue à la fin du mois. Des dizaines d'autocollants de la CGT a posé sur la permanence du député Cyril Isaac Sibyl à Oulin avec cette inscription « Cyril, t'es où ?». Ce sont des membres des fédérations Chimie, Énergie et Cheminots du syndicat qui se sont retrouvés hier matin devant la permanence pour exprimer leur colère contre le projet de réforme des retraites. La permanence du député Renaissance a subi également une coupure d'électricité pendant 2 heures. Un cortège s'est ensuite formé pour aller jusqu'à la mairie d'Oulin et essayer de rencontrer la maire Les Républicains Clotilde Pouzergue. Aucune délégation toutefois n'a été reçue.
Lyon demain, le média influenceur d'avenir.
Le paysage lyonnais ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, les questions du quartier Gerland Nord, le futur de la friche des anciennes halles Nexans, est en train de se dessiner. La métropole a présenté le projet d'urbanisme, mené en collaboration avec Bouygues Immobilier, propriétaire du terrain. Petit rappel historique, en 1917, la compagnie des câbles de Lyon installe son usine à Gerland. Après sa fermeture, c'est l'entreprise de production de câbles Nexans qui investit les lieux. Aujourd'hui, les activités industrielles ont quitté ce lieu et laissé derrière elles une friche. Friche achetée en 2018 par Bouygues Immobilier et la métropole de Lyon. Sur sa partie, la métropole a implanté le collège Gisèle Halimi en 2021 et cédé un terrain à l'école de management OM Lyon pour son futur campus. Bouygues Immobilier avait l'intention d'utiliser ses 4 hectares pour y construire des logements, mais l'entreprise a dû revoir sa copie. Le premier projet avait été réfléchi sous la précédente mandature. Aujourd'hui, le plan local d'urbanisme et de l'habitat n'est plus le même. Un travail commun a été mené entre les différentes parties et aujourd'hui, les anciennes halles Nexence ont un avenir certain en attendant la prise de décision et les travaux. La friche a été aménagée par Bouygues Immobilier avec le principe d'urbanisme transitoire pour mettre d'ores et déjà de l'activité sur ce terrain. Notre journaliste Madeleine Clunia a rencontré Lionel Kerr, directeur général logement Est chez Bouygues Immobilier, pour évoquer ce point et le futur des halles Nexence.
Artistes, artisans, manufacturants tout genre et même terrain de pétanque, voilà ce qu'on peut trouver sur le terrain des anciennes halles Nexence. La cité des halles, c'est le nom donné à ce bouillonnement d'activité, donne l'occasion aux habitants et aux artisans de profiter du lieu temporairement en friche. Et c'est aussi une bonne chose pour dessiner le futur de l'endroit, comme l'explique Lionel Kerr, directeur général logement Est chez Bouygues Immobilier.
En 2021, on a lancé cette démarche d'urbanisme temporaire. Finalement, ça a deux vertus. La première vertu, c'est de redonner ce site aux habitants, puisque c'est un site qui est complètement fermé, on est sur un site industriel, donc de 4 hectares au total, finalement 4 hectares en pleine ville fermés aux habitants. Donc cette démarche d'urbanisme transitoire permet effectivement aux habitants de réinvestir ces lieux. Donc il y a des activités festives, culturelles, il y a des activités productives, des artisans qui travaillent. Donc ça c'est la première démarche en réouvrant le site aux habitants. La deuxième au travers de cet urbanisme transitoire, c'est de préfigurer les futurs usages, c'est-à-dire qu'on teste des solutions, on teste des concepts, des initiatives qui pourraient être embarquées, reproduites dans le futur projet. Donc c'est l'intérêt de ces démarches d'urbanisme transitoire et de préfiguration.
Et là, vous savez s'il y a des artisans qui sont actuellement ici, qui vont rester dans le projet ?
Alors c'est possible, bien sûr, ça fait partie des objectifs. Ça dépend aussi d'eux, de leurs intentions. Et puis ça peut en amener d'autres aussi. Donc on verra effectivement dans quelques années, puisque les travaux démarreront en 2025. Moi, je souhaite qu'un certain nombre d'artisans que vous avez vus puissent être là.
Et dans le processus de construction, il y a des choses qui ont changé avec... Du coup, cette mairie écolo qui vous a un peu forcé à changer vos plans ?
C'est un projet qui a évolué, qui a beaucoup gagné en qualité, notamment autour de ce projet de parc urbain. Et donc, on a eu un dialogue et un partenariat extrêmement fertile, productif, constructif. Il y a eu des confrontations d'idées, mais je crois que c'est comme ça que les beaux projets émergent. Souvent, les consensus un peu mous ne donnent pas forcément de bons résultats. Donc là, il y a eu un dialogue, mais avec beaucoup de respect. On avait tous le même objectif, c'était d'aboutir à un projet. Donc moi, je suis très content de la façon dont la collaboration s'est développée avec la collectivité.
Et au niveau des matériaux qui vont être utilisés, par exemple, il y a des choses qui vont changer ?
Alors, de toute manière, la ville de Lyon a des référentiels, a des chartes que l'on mettra évidemment en œuvre. Et puis, effectivement, c'est des matériaux orientés vers des matériaux biosourcés, par exemple. Il y a un enjeu pour les élus, pour les collectivités et pour les acteurs de la ville comme Bouygues Immobilier de produire des bâtiments en émettant moins de carbone. Donc là, c'est des enjeux que Bouygues Immobilier a pris à bras-le-corps en modifiant ses processus de construction, en prenant des nouveaux matériaux, en étudiant des nouveaux modes constructifs. Donc là, voilà, c'est une démarche qui est vraiment très engagée, qui est en cours et qui est un processus qui ne s'arrêtera pas au regard des obligations qu'on a et des enjeux climatiques auxquels on doit faire face tous. Voilà.
Il y aura des loyers abordables, des baux réels solidaires. Il y aura aussi des loyers aménagés pour inviter les commerces à s'implanter. Pour vous, Bouygues Immobilier, est-ce que ça change du coup vos rentrées d'argent, je suppose ?
Il y a une partie d'activité productive qui sera développée sur ce site. L'enjeu, effectivement, est de permettre à ces activités de pouvoir s'installer et donc dans des conditions économiques pour ces activités qui soient compatibles avec leur modèle, avec leur activité. Donc ça, c'est un parti pris qui a été, je dirais, posé et adopté par l'ensemble des parties, compris par Bouygues Immobilier. Et ça fait partie, je dirais, de l'équilibre global du projet.
Un équilibre global pour favoriser la mixité au cœur de ce quartier, une volonté de la métropole et de la ville de Lyon qui estime que c'est grâce à la mixité qu'on crée des espaces agréables à vivre. Fanny Dubeau, maire du 7e arrondissement, explique les mesures prises.
Là, on parle notamment, nous, de logements abordables parce qu'on souhaite que les personnes qui vivent à Lyon ne soient pas obligées de partir parce que les prix augmentent, et on le voit déjà dans certains quartiers. Donc là, sur les logements qui vont être construits, 50% sont du logement abordable, 5% en BRS et le reste sera du locatif social.
Une centaine de chambres étudiantes seront également créées sur le site, mais les populations à revenus modérés, personnes plus aisées et étudiants étaient importants pour la métropole. Mixer logement et activités commerciales était également essentiel pour fabriquer un quartier fonctionnel et surtout, élément phare du projet, créer un parc urbain d'un hectare et demi. C'est Bruno Bernard, président de la métropole, qui nous en parle.
Avec ici un large espace vert, un parc urbain, qui va permettre sur le quartier nord de Gerland de doubler la surface d'espace vert par habitant sur le quartier. C'est aussi essentiel qu'on puisse respirer dans le quartier.
Le but du projet est de rendre le quartier le plus agréable à vivre possible, un lieu favorable à la santé grâce à l'îlot de fraîcheur que représente ce parc urbain accessible à tous, et aussi un endroit qui répond aux besoins de logement à Lyon pour toutes les populations.
Merci Madeleine. Les premiers travaux sur l'ancienne friche des câbles de Lyon sont prévus en 2025 pour une livraison en 2027. D'ici là, une occupation temporaire permet de tester divers usages. C'est ainsi que la Cité des Halles a vu le jour, un lieu donc plutôt festif. Mais des artisans ont aussi pris place dans les anciennes usines. En poussant quelques portes, nous avons découvert un alambic flambant neuf. Du gin et du whisky vont bientôt sortir des vieux hangars gerlandais. Alexis Casimiri, cofondateur de la distillerie La Mauvaise Graine.
La Mauvaise Graine, c'est une distillerie locale, urbaine, qui produit des spiritueux et qui utilise son savoir-faire et son héritage culturel pour représenter la ville de Lyon à travers ses spiritueux.
Comment ça fonctionne une distillerie ?
On achète des matières premières, on transforme pour obtenir de l'alcool, donc du coup de l'alcool, ce qu'on appelle de l'alcool éthylique pour le gin, et ensuite on redistille pour avoir le produit final. On a un labo de transformation.
Décrivez-nous un petit peu l'appareil qu'on voit ici.
Alors, l'appareil, c'est ce qu'on appelle un alambic à colonne hybride, donc on peut travailler à colonne et en ce qu'on appelle pot still traditionnel, ce qui nous permet d'avoir un degré de pureté assez important, ce qui est super important dans la production de gin, pour avoir un gin qui est assez sec mais à la fois aussi très aromatique. Donc on va venir chauffer nos matières premières qui vont produire des vapeurs. Ces vapeurs là vont passer à travers nos colonnes, ça va créer des mini distillations, et ensuite elles vont passer dans le condensateur final qui là va transformer nos vapeurs en alcool.
Qui sont vos clients à la fin?
C'est les particuliers et les clients du CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants, les bars, les bars à cocktails. Alors pour le whisky, c'est ce qui est super intéressant, c'est que tout au long du processus de création, chaque étape est très importante. Donc on a ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation va permettre de développer des arômes, et ces arômes-là, il va falloir qu'on les fixe à travers la distillation. Donc la distillation va permettre aussi de séparer les arômes qu'on veut et d'autres qu'on ne veut pas. Nous, ici à La Mauvaise Graine, on travaille avec le maïs, donc on va produire un whisky type américain, donc bourbon, qu'on ne pourra pas appeler bourbon bien sûr parce qu'on est en France. Et le maïs, c'est quelque chose qui est très aromatique, qui va donner quelque chose de très puissant et aussi d'assez rond dans sa finalité. Nous aujourd'hui, on va produire deux types de whisky. On va produire un whisky blanc, donc c'est un whisky qui n'est pas vieilli. On va le travailler avec un produit à l'intérieur dont je ne peux pas parler parce que pour aujourd'hui c'est tenu secret. Mais voilà, nous ce qu'on cherche aussi, c'est emmener les gens à boire du whisky, ceux qui n'aiment pas le whisky, les emmener vers le whisky à travers le whisky blanc, donc c'est-à-dire un whisky pas vieilli, et donc créer quelque chose de très consensuel où les gens puissent se dire ah, moi je vais le boire en cocktail, ou même juste avec du ginger beer ou avec du tonic, et que ça développe certains arômes. Ensuite on va travailler notre whisky américain qui sera vieilli plusieurs années en fût. Dans un souci écologique aussi, on va pas travailler avec du chêne neuf américain, on va travailler avec des fûts de chêne qui sont régénérés, voilà, donc une société à Bordeaux qui régénère les fûts, et au lieu de les faire venir de l'autre bout du monde, en fait on utilise déjà ceux qui sont sur le territoire.
C'est important d'être dans une friche urbaine comme ça, ici sur la friche Nexens.
Au départ, j'aurais pas su vous répondre. Aujourd'hui, oui, parce qu'on travaille avec beaucoup de gens, et en fait on s'entraide, c'est comme un petit village, donc on a besoin de quelque chose, on va aller voir une personne et elle va nous dire bah oui je peux t'aider avec ça, et en fait on va tous s'entraider. Forcément, je vais pas vous mentir, le coût du loyer ici est beaucoup moindre par rapport à un loyer qui pourrait être Perrin à Lyon, donc du coup ça nous permet ça permet de se lancer, de voir ce qu'on peut faire, nos capacités de production en termes de litres, et après de dire ok, on peut faire ça, on peut le faire de façon pérenne dans un lieu, voilà, on peut prendre le risque entre guillemets. Là vraiment on y va, on se dit ok, on peut tester, on peut faire des choses, on peut se tromper, même on y va avec l'esprit léger.
Alexis Casimiri, cofondateur de la distillerie La Mauvaise Graine, a consommé bien sûr avec modération. Football pour terminer, la Coupe de France, les Lyonnais ont dû aller jusqu'au tir au but pour se qualifier pour les quarts de finale. Un match face à Lille conclu sur le score de 2-2. Victoire de l'OL, 4 tirs au but à 2. L'Olympique Lyonnais vient d'enchaîner un 5e match de suite sans défaite. Les Lyonnais connaîtront leur adversaire en quarts de finale de la Coupe de France ce jeudi à l'occasion du tirage au sort. Il aura lieu ce soir à partir de 20h45 avant le dernier 8e de finale opposant Lorient à Lens. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.